Aujourd'hui, je pensais peut-être quand même continuer là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire avant d'aborder l'électronique, de parler d'une très vieille pièce, qui est la dernière pièce que j'accepte encore de qu'elle soit jouée, des pièces plus anciennes. C'est une pièce que j'ai écrite en 82, je crois, ou je ne sais plus très bien, qui s'appelle Trey 2. Parce que disons que c'est une manière peut-être de montrer à un moment donné comment j'ai travaillé. Et que je dis toujours, comme je disais la dernière fois, il y a une certaine distance que je peux obtenir parce que je me sens, c'est comme un autre compositeur. Donc, ça me donne une certaine liberté pour parler de cette pièce. Trey 2, Trey, ça veut dire 3 en ancien français. 2, c'est parce que c'était la deuxième tentative. L'idée de j'avais écrit un premier Trey qui est une pièce pour voix solo. Et c'était un texte d'un ami qui était poète et qui a écrit un petit texte sur l'idée d'un pays à dédoublement que j'aimais beaucoup. Et donc l'idée était venue de faire en fait une pièce où j'avais 3 lignes, une ligne chantée, une ligne Sprechgesang, enfin parler rythmiquement, et une ligne parlée. Et donc l'idée de la pièce c'était, elle avait un petit clave en plus, et chaque fois elle pouvait choisir en fait, et elle donnait un coup de clave, et elle devait changer de ligne de lecture. Et les 3 lignes étaient 3 variations sur ce même texte. Mais cette pièce n'a jamais été jouée, Dieu merci. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose peut-être à faire avec ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de refaire un Trey 2, enfin, c'est la deuxième tentative. Je me suis donc penché sur le problème. Du détriplement de la personnalité, l'idée que ce problème schizophrénique, où une chanteuse va être 3 personnes à la fois. Donc, c'est une pièce qui est écrite pour la formation du Pierrot Lunaire. Alors, je propose peut-être qu'on écoute, et après, je vais aller là. Aujourd'hui, je pensais parler un petit peu en détail de comment. Comment j'avais trouvé des notes, comment les rythmes. Voilà. Je vais peut-être distribuer quelques partitions. J'en ai pas beaucoup, mais bon, j'en ai quand même. Un, deux, trois. Là, c'est de nouveau à peu près une partition par rangée. Je ne sais pas si je vais faire passer. Avant de commencer, juste donc pour vous sachiez comment l'idée de comment va se passer ces 2 dernières séances, c'est parler un peu du détail avec cette pièce-ci. Ensuite, je pensais passer le concerto pour violon, prisme incidence, ou plutôt juste parler un peu en général. Ensuite, aborder l'électronique. On va parler de rhizome, de congruence. Peut-être un peu de forme fragment. Enfin, tout ça, c'est ce que devrait se passer aujourd'hui. Parce que la dernière séance, je voulais parler surtout de 2 pièces, D'ombre lointaine et Cassandre, où l'idée, c'est de plutôt parler de la relation texte-musique, pour essayer de s'entretenir sur ça. Alors, Trey 2, c'est une vieille pièce. Donc, j'ai moi-même beaucoup de critiques avec cette pièce. Mais bon, là, c'était un enregistrement qui a été fait par l'Ensemble Contrechamps il y a très longtemps aussi. Je ne sais pas quand c'était, mais il y a très longtemps déjà. Thank you.
Thank you.
Merci. C'est, comme je disais, c'est une, pour moi, c'est une pièce qui est très vieille, puisqu'elle fait, elle a quasiment 20 ans. Et si, la raison pourquoi j'en parle, c'est simplement justement parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de critiques à faire à cette pièce. Mais en même temps, c'est une pièce, c'était une des pièces pour moi, à l'époque, qui m'a obligé à... C'était un pas en avant pour moi, et c'est des choses qui me sont restées. C'est-à-dire, par exemple, dans la pièce, là, il y a un travail sur... En pensant au phénomène de détriplement, j'avais un peu lu, etc. Et par exemple, un des caractères de ce problème, c'est que quand il y a un changement de personnalité chez une personne qui a cette maladie, c'est toujours une influence extérieure qui va faire le moment où elle change de personnalité. Donc chaque instrumentiste a aussi un instrument de percussion. Ces instruments de percussion sont ce sont ces éléments étrangers. Enfin, je vais revenir sur ça. Mais ce que je voulais dire, c'est dans le travail dans beaucoup d'endroits du timbre, c'est lié aux voix, à ce que fait la voix. C'est-à-dire que j'essaye de faire une analogie entre le phonème qui est dit, enfin, ou des choses comme ça, aussi au niveau des instruments de percussion. C'est-à-dire d'essayer de trouver une analogie du son. Et ça, c'est une chose qui, dans forme fragment, que vous avez entendu l'autre soir, est une chose, une des choses fondamentales au niveau de l'électronique. C'est-à-dire d'essayer d'aller voir le texte, d'essayer de trouver le son, et qu'on va essayer il y a tous des parcours. On va parler aussi dans Rhizome, c'est des choses qui... je pense que je ne vais peut-être pas trop m'attarder quand même sur cette pièce, mais quand même, c'est des choses qui me sont devenues, à ce moment-là, après coup, avec le temps, dans cette pièce-là, qui sont devenues des choses qui sont devenues des problèmes. Ce que je suis très intéressé aujourd'hui, c'est l'idée de fondu enchaîné de sonorité. C'est-à-dire de voir dans Rhizome, on en parlera, mais l'idée de Rhizome vient aussi de Treille. C'est-à-dire que dans Treille, à l'époque, j'étais complètement dans une idée de tout doit partir d'une petite cellule et tout ce qui vient autour doit dépendre de cette cellule. Et une des choses, c'était extrêmement structuré comme pièce, et où il était important que, au niveau de... Attendez, je vais mettre une petite... l'idée, c'était... Il y a trois personnes. Donc, j'ai décidé de faire trois sections, trois dialogues dans la pièce. C'est très original. Donc, c'est-à-dire, il y avait un dialogue 1, dialogue 2, dialogue 3. Le premier étant toujours la voix... Donc, avec violoncelle et clarinette basse. Le deuxième étant la partie piano-clarinette. Et le troisième étant flûte et clarinette. J'ai voulu aussi que... Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce chiffre 3 de plus en plus. Et il fallait que tout devait dépendre aussi de ce chiffre 3. C'est-à-dire donc que chaque... et comme il y avait... Donc, déjà là, je commençais cette histoire de passage, chaque instrument a le son normal et a aussi un instrument de percussion. Et il y a la chose intermédiaire qui est un son percussif, enfin un son dénaturé, c'est-à-dire des demi-pizzicato, des demi-harmoniques, des sortes d'effets plus percussifs ou de bruit. Donc on a déjà, il y avait aussi l'idée de trois éléments, le son normal, le son percussif pour arriver à la percussion. La percussion elle-même, ils avaient chaque instrument à trois percussions, une peau, un métal, un bois. La chanteuse chante trois langues. Tout était, il fallait, ça c'était le point de départ. Et aussi parce que j'ai choisi trois langues, parce que ça c'est une chose que je trouve encore aujourd'hui fondamentale, c'est que quand on... Il y a deux options. Moi, je dis toujours... on verra sur un exemple plus tard que ce qui est important, c'est comment on traite le matériau. C'est-à-dire, c'est ce travail. C'est comme... j'ai toujours... C'est comme un sculpteur. Quand on prend une glaise, d'abord, elle est dure. Elle est résistante quand ils essayent de faire... Et c'est à force de le travailler qu'elle devient molle, elle devient chaude et qu'on commence à pouvoir de mieux en mieux créer les formes. Et en fait... je pense que ça, c'est le travail de composition, si j'ose dire souvent. Mais, et là, il y a deux options différentes. Deux compositeurs que j'aime beaucoup, qui ont deux options très différentes à ce niveau-là, qui sont d'accord, je crois, sur ce sujet-là, que c'est ça. C'est un, c'est Magnus Lindbergh, l'autre, c'est Brian Fanehaw. Et Brian dirait plutôt, il est important que le matériel de départ soit le plus neutre possible pour que je puisse opérer un maximum de changements. Magnus dira plutôt, il faut que le matériel de départ soit très caractéristique pour qu'on entende mieux le changement qu'on opère. C'est un... mais je crois que ce moment-là et c'est ce que je voulais dire l'autre jour par rapport à l'idée de la créativité et ces structures ou ces obligations, ces lois qu'on se donne, c'est aussi quand on a une chose de départ et qu'on a une idée musicale, que si on la travaille, on va travailler, on va déformer complètement ce matériau, mais c'est un moment où on va trouver des idées, je vais en parler plus longuement. Bon, je reviens sur cette histoire de forme, mais déjà à ce moment-là, et c'est une chose qui va devenir de plus en plus dans mes compositions après, c'est que ça commençait à m'irriter, cette sorte de positivisme, malgré tout, de toujours tout était en trois. Donc j'ai commencé à me dire, bon, il faudrait quand même peut-être diviser ces trois sections en deux sections, c'est-à-dire un passage qui est le dialogue, un passage qui est... Pardon ? Non, parce que, oui, juste, parce que je trouvais qu'il y avait un côté, tout étroit, il y avait un côté commencé, une sorte de... je trouve que il y a un leurre, ce côté positiviste de croire que du moment qu'il y a une technique qui est juste, une chose qui est juste, on ne se la pose, on ne se la remet plus en question. C'est-à-dire que c'est un grand problème de la CAO, je pense. Et ça, je vous dirais qu'à mon avis, c'est une chose qu'il faut faire très attention, c'est que ce que je remarque de plus en plus avec des gens, c'est quand ils emploient la CAO, Patchwork, Open Music, au moment que l'ordinateur vous crache des notes, c'est juste, il l'a fait, donc c'est juste. Il y a une sorte de... on se remet à la bête en se disant, au fond, on avait un petit calcul, on a un algorithme qui nous crache des notes, souvent les gens oublient un petit peu de se dire, oui, mais c'est pas parce que c'est craché forcément par la... Il y a une sorte de confiance dans ce qui sort qui est des fois une illusion, à mon avis. Et donc ensuite, j'ai rajouté des parenthèses, j'ai mis un épilogue, j'ai essayé de... Je pense que plus ça va, plus je n'aime pas les choses qui n'ont qu'une dimension, qui n'ont qu'un sens, qui sont... Il faut pouvoir des fois dire des choses qui ont une... Il faut pouvoir le faire aussi, une fois de dire, voilà... Là, c'est une chose importante. Je pense qu'un langage est une chose assez souple et avec plusieurs dimensions et plusieurs un multisens. Bon, là, je deviens très. Je sens le conseil hier soir. Je continue juste un tout petit peu et j'ai peut-être vraiment pas m'attarder parce que sinon je sens que je vais me perdre là-dedans. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'au départ, alors je ne sais pas du tout si on... Ce n'est pas très important. J'avais marqué série à l'époque, mais ce n'est déjà pas des séries, mais c'était 3 fois 3 notes, donc c'était déjà, il est là. Et ces 3 fois 3 notes, c'est simplement à ce moment-là, il y a très longtemps, donc c'est simplement, c'était le point de départ, c'était de faire rien de spécial, c'est c'est pareil, c'est des inversions, des rétrogrades et puis des transpositions sur les notes. Mais il y a déjà des sortes de répétitions de notes. Et ça, c'est pas venu au hasard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que ce que je faisais à l'époque, c'est que pour travailler, je commençais jamais à écrire la musique avant de savoir tout ce qui se passait dans la pièce. C'est-à-dire que j'ai des collections de petites cartes postales où je marquais toutes sortes d'idées, des idées musicales, des idées de structure. Et ça me permettait, en plus après je me faisais des dessins de forme avec et je commençais pas, ça vous dira rien, c'est pas très important, mais je commençais jamais à écrire des notes de musique avant de tout savoir ce qui allait se passer, c'est-à-dire vraiment je mettais des fois des indications de chaque passage, il y avait qu'est-ce qui se passait, quelle note, et j'avais cette sorte de synopsis qui me permettait de savoir grosso modo ce qui se passait pendant la pièce. Et pour moi, ça a toujours été une chose importante qui reste encore aujourd'hui, pas toujours, ça dépend des pièces, mais où j'aime bien avoir une base sur laquelle je vais travailler pour savoir où je suis, à quel moment. C'est ce dont je parlais l'autre jour avec quelqu'un. Mais ce stade étant fait, il y a un moment donné où justement, bon, j'ai écrit ça. Juste les trois premières mesures, plus ou moins. Et c'est là où je me suis... C'est-à-dire que c'était ça l'idée de l'époque, c'était d'écrire une idée et après de s'arrêter et dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé et de l'analyser. Et c'est de là qu'en fait sont venues ces notes. C'est-à-dire que simplement, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait comme note. Et ces deux séries de 3x3 notes, c'est en fait ça. C'est-à-dire que là... Attendez, ça ne marche pas. Voilà, enfin, on n'arrive pas à lire, mais ce n'est pas grave. Mais ces notes-là, c'est ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est le violon. Voilà, pardon, j'avais écrit ça, c'était ça qui... Bon, et c'est simplement à partir... Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ça, de ces notes-là, ça commence comme une pièce un peu sérielle. C'est d'ailleurs ce que je supporte plus aujourd'hui, c'est que cette couleur un peu... Mais bon. Mais on peut très bien... Et alors, autre chose que j'avais, c'était que j'avais choisi ces trois textes. Ces trois textes sont un... En anglais, c'est Richard Lange, Notes, qui était un psychiatre pour enfants, qui a beaucoup travaillé justement avec des enfants autistes, ou des enfants, qui a écrit des poèmes. Et donc Notes, c'est les nœuds, enfin les nœuds de la vie. Et il y a un très bon un poème qui se fait que par. J'ai peut-être quelque chose. Je sais pas si on. Il y a, ouais, voilà, enfin là on voit un petit bout de ça, c'est If it's not me, it's not mine, therefore if it's not me, it's not mine. C'est un jeu sur la permutation, sur justement le jeu de la personnalité des je suis désolé, je suis vraiment. Ah voilà, c'est ça que je cherche. On voit mieux. Alors, enfin, toujours pas. Voilà. Donc, je reviendrai sur ça tout de suite. Donc, il y avait ce choix-là. Il y avait François Le Lyonnais, qui donc est un poète ulipien. Je ne sais pas si certains de vous connaissent le groupe Oulipo, mais c'est un groupe. Il y avait Georges Perec, Italo Calvino, pour citer les plus fameux. Le Lyonnais, il y avait Queno, Jacques Roubaud. Ce sont un corpuscule d'écrivains qui travaillent beaucoup avec des règles très, très strictes. C'est assez fascinant de voir comment Calvino, par exemple, ou mieux l'exemple disons, mythique, c'est La vie mode d'emploi de Georges Perec, que je vous conseille à tous de lire si vous ne l'avez pas lu. C'est un énorme roman, extraordinaire, et où en fait, il a toute une série de principes, de structures qui fait que dans chaque roman, dans chaque chapitre, tout se passe dans un immeuble, donc il emploie des formules mathématiques, un carré bi, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, et qui donne dans chaque chapitre qu'est-ce qui doit arriver, qu'est-ce qui doit être cité, enfin il y a toutes sortes de règles. Et donc, justement, ce dont on parlait, c'est une sorte de carcan dans lequel il va falloir qu'on il faut être inventif pour donner un sens à ça. C'est comme il a écrit un livre qui est très... La disparition, j'allais justement dire, hein, qui est très connu, La disparition, qui est un livre où la disparition, c'est qu'il n'y a pas un seul E. C'est tout un livre où il n'y a pas la lettre E. Et le dernier, c'est Konrad Bayer, en allemand, qui était un Viennois, le groupe de Vienne, assez extrême. Et donc, pareil, Le Lyonnais ou Konrad Bayer, ce sont des textes où il n'y a pas de sujet. Pas de verbe, par exemple, dans le... Konrad Bayer, c'est par exemple « an der, der für den » ou « an der, das trotz der von keinem », ce sorte de jeu, ou alors en français, enfin, quelque enfin, « pas ne tant depuis tout » ou « après un, car si dû en... » Enfin, ça, c'est le Lyonnais. Donc, c'était les deux... ces sortes de l'absence du jeu, un peu, et puis à part, surtout, pour l'anglais. Ou alors là, il ne s'agit que de ça. Et ce qui m'intéressait dans le notes, c'est que, je vous dis, c'est toujours donc, if it's not me, it's mine,
If it's not me, it's mine. If it's mine, it's not me, etc. Et donc, il fait, il donne toujours pas un prédicat, mais un numéro. Puisqu'il s'agit de permutation, et ce qui est intéressant quand on essaie de comprendre le sens, je veux dire, il annule le sens et ça fait un jeu de. Mais à quel point qu'à un moment donné, il simplifie les choses, ou simplement à la fin, il met que les chiffres, c'est-à-dire, if it's mine, it's not me, if, puis après il met 1, 2, 3, 4, donc, if it's mine, it's not me, 2, c'est, if it's not mine, it's not me, enfin, il donne simplement ces chiffres, comme, et puis après, on est soi-même censé faire la lecture. Alors, à ce moment-là, justement, ce qui m'intéressait, c'était pareil, donc j'ai employé ces chiffres, ça c'est l'autre élément qui sera dans toute la pièce, ces chiffres-là, pour créer des rythmes. Alors ça, c'est d'une manière très normale, rien du tout de rien de particulier. Ça, c'est le genre de choses que tout le monde faisait à l'époque. C'est-à-dire que de prendre ces chiffres et d'avoir un multiplicateur. Là, c'est ça, c'est la croche, par exemple. Et donc, on voyait 1. Je veux dire, ça c'est 1, 2, 3, 4, etc. Enfin, c'est ces chiffres-là. Donc, non, je n'ai jamais rien. Voilà. Et tout le temps va être comme ça. Et c'est très oblique. Je les ai gardés et c'est les endroits où je pouvais changer d'une étape à une autre. Bon. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que dans le début, alors là je ne me souviens plus, je vous demande de me croire sur parole. C'est que même l'idée du début, c'est ce rythme qui est homophonique, l'idée du rythme, c'est que c'était en fait, c'est une lecture du texte. C'est-à-dire que le nombre, je ne me souviens plus exactement, parce que ça fait longtemps, mais le nombre de notes, ça c'est le nombre de syllabes. Et quand je faisais, c'est-à-dire que ça c'était par exemple un mot à six syllabes. Par exemple, cet exemple-là, enfin oui, pendant ça, c'était, il y avait cinq syllabes, donc ça voulait dire, je crois, j'accentue deux parce qu'il y a une syllabe, il y a une consonante au départ, et là, je ne me souviens plus exactement, tout est le rythme est lié au texte, c'est-à-dire que quand il y a une virgule, je ne sais plus ce que c'était, et c'est ça qui donne ce texte, c'était lié de rythmiquement, cette homophonie, c'est une sorte de manière de traduire le texte déjà. Bon. Je vais avancer. Donc je vous avais parlé du tempo l'autre jour. Je ne crois pas que forcément j'ai besoin de revenir, mais vous avez, je pense, entendu les deux moments où où c'était très clair. C'était c'est le duo clarinette piano, où là, donc j'avais besoin des changements. Je vous parlais de ces changements brusques. L'autre jour, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'était l'idée de pouvoir changer rapidement de tempo. Bon, là, c'était un exemple très simple où j'étais, c'est 90, c'est passage à 54, mais donc il y avait je voulais. Enfin, j'ai pas ça là, mais. Voilà, si j'ai ça quelque part. Si j'en parle. Désolé, j'ai un peu de peine ce matin à organiser. Mais... Voilà, donc on revient sur ce que je vous avais montré l'autre jour. Je vais quand même vous montrer que donc ce qui se passait, par exemple, à la fin, c'était le moment dans dans chacune de ces parties, il y avait un des caractères qui prédominait. Et dans ce passage-là, c'était le caractère allemand qui prédominait, si j'ose dire. Enfin, le caractère. Mais vers la fin, justement, l'idée, c'était que ça devient vraiment un peu une folie. Et donc, ça sautait de plus en plus d'une personnalité à l'autre, et donc d'une musique à l'autre. Et donc, j'avais donc, les relations que j'ai expliquées l'autre jour, et là, j'avais ces trois niveaux. Et donc, j'avais ces trois niveaux l'un au-dessus de l'autre, et donc, vous voyez que tout se comprime. C'est très simple, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, et 2, 4, enfin 8 ans, 6 ans, 4 ans, 2. Et donc, plus ça va, plus... les changements de tempo se faisaient de plus en plus rapides, donc c'est ce que je viens de vous montrer. Donc on changeait 54 grâce à ça, et à la fin, justement, ça devenait tellement serré qu'en fait, après, et c'est là que je. C'est la deuxième partie de ce que je vous expliquais l'autre jour, que je me rendais compte, c'est que j'écrivais ensuite les tempos par rapport à un tempo de base, ce que je vous avais montré l'autre jour. Voilà. Bon. Pas sûr que c'est facilement ce que je raconte. Je vais peut-être. Vous expliquer, il y a deux choses, et je crois que je vais même arrêter de. Parce que je vais me perdre, je sens le temps qui passe, et je ne mets pas les points sur les i aujourd'hui. Mais il y avait une chose qui m'avait frappé à l'époque, et ça, c'est pour ça que je dis toujours, par exemple, quand à mes étudiants, de toujours. Une des choses que j'insiste au début, c'est que j'essaye de leur dire, écoutez, je ne vous oblige pas, mais essayez vraiment une fois de travailler structuré, de vous obliger à faire des choses. Parce que je crois qu'à un moment donné, plus on travaille avec un matériau, comme je disais, plus on fait connaissance de ce matériau, plus je dis toujours, par exemple, Brahms, un compositeur que j'aime beaucoup, je parle toujours du deuxième quatuor, donc ça, je sais que toi, tu as déjà entendu ça, c'est que, si on fait l'analyse du deuxième quatuor de Brahms, on peut tout à fait réduire le tout à deux cellules à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment que lui ne pensait pas, je ne pense pas, enfin, je m'étonnerais, disons, qu'il se mettait à faire le même genre d'opération, il n'avait pas d'ordinateur. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'à travers la réalité qu'il avait, la réalité musicale était plus proche de la réalité de ce qu'on apprend à l'école, au conservatoire de chorale, des fugues, etc. Mais c'était le fait de mettre en place un network, un réseau qui fait que quoi qu'il y avait une sorte de réseau que quoi qu'il fasse, il y avait toujours, c'est toujours une conséquence, il y a toujours une des relations. C'est une chose qui on va parler justement quand je parle de rhizome, peut-être parler de ça. Et je veux dire, et qui fait que je pense que ces grands compositeurs qui sont, c'était des gens qui ont mis en place, c'est-à-dire que c'est de mettre en place ce réseau qui est difficile. C'est-à-dire que je crois que c'est des années d'études, des années d'analyse, des choses qui font qu'on va créer un network qui va faire qu'on va peut-être écrire, quoi qu'on écrive, on va tout de suite voir des conséquences. Aujourd'hui, je dirais, mon avantage sur beaucoup de vous, c'est que j'ai 20 ans de plus d'expérience et que je sais que quand je suis par exemple avec mes étudiants et que je regarde des notes qui m'amènent, je suis sûr de pas beaucoup de choses. Mais ça, je suis sûr simplement, c'est que je m'assieds et je vois 20 possibilités différentes tout de suite, enfin qui m'apparaissent tout de suite par rapport à 3. Et que la personne qui commence ne les voit pas. Il en voit peut-être 3 ou 2, mais c'est parce que je crois que, et ça, c'est pour ça que je m'obstine toujours à présenter cette pièce, parce que c'est une pièce qui m'a aidé en fait beaucoup. Cette structuration, cette obligation de me battre avec un matériau, c'est là où j'ai mis en place une sorte de network et que j'essaye toujours d'agrandir, parce que c'est un potentiel pour ensuite de plus en plus travailler. Et je crois aujourd'hui justement, dans une période où l'histoire de la musique est un peu il y a un éclatement de fin de siècle où tellement de choses sont possibles, c'est très difficile de se créer des outils pour vraiment travailler d'une manière conséquente. Parce que je veux dire, par exemple, j'ai pu écouter que la première conférence de Magnus. Je veux dire, tout paraît comme ça très simple, mais c'est 20 ans, 25 ans de travail sur un problème qui font qu'il y a une certaine évidence. C'est toujours très, très. Je veux dire, de parler d'une chose, c'est toujours facile. La faire, c'est une chose plus difficile. Donc, ce que je voulais dire, c'est par exemple, à ce moment-là, donc je travaillais, et de voir aussi comment un matériau peut donner un déclenchement, par exemple. C'est que le premier passage, clarinette basse et violoncelle, donc j'étais là, je savais une chose, je voulais que ça commence dans le grave, et que de plus en plus ça allait accélérer, puis on allait monter, présenter la voix qui allait peu à peu se lever, et puis bon, une chose très grossière, voilà. Puis je savais quelle note je voulais à l'arrivée à peu près, je savais quelle note. Bon. Et en travaillant justement, je commençais, alors à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer, je veux faire une sorte d'accélérando aussi, de plus en plus ces petits à-coups, il y a le boum, boum, enfin, de plus en plus d'accent. J'ai donc employé ces rythmes que vous avez vus tout à l'heure, et j'ai commencé à écrire en haut en choisissant ces fragments et qui s'accéléraient de plus en plus. Et plus ça a été, plus d'un coup je me suis dit, bon, ça c'est peut-être pour le violoncelle, enfin j'essayais un peu. Et j'ai commencé ensuite en bas, sur la même feuille, à écrire les rythmes de la clarinette basse. Et à un moment donné, bon, je continuais comme ça, c'était un peu comme ça, comme on fait des fois, on est là, on cherche un peu, et puis on écrit, puis oui, c'est bon, peut-être. Et puis d'un coup, je suis arrivé à la feuille au milieu, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors j'ai compté les lignes, et je me suis rendu compte que sans le faire exprès, j'avais exactement le même nombre de lignes, de haut en bas, qui se rejoignaient. Et non seulement quand j'ai regardé, j'avais exactement le même nombre de noirs. C'est-à-dire, et d'un coup, j'avais ce petit moment, il y avait cette petite cellule rythmique qui était là et qui arrivait exactement ensemble. Alors, je me suis dit, c'est évident, pourquoi je n'y ai pas pensé. L'aboutissement de cette chose, c'est qu'ils vont jouer ensemble à ce moment-là, un rythme. C'est en fait, ils se courent après jusqu'à un moment où ils arrivent ensemble. Donc ce que je veux dire, et pour moi, c'est la seule chose qui fonctionne dans ce moment-là, c'est ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est aussi considérer un matériau comme un dialogue. Moi, par exemple, je ne compose pas vraiment au piano, mais je trouve très bien de temps en temps d'avoir un piano, parce que c'est comme pouvoir parler avec quelqu'un. Avoir un matériel, se faire je dis toujours, c'est comme faire un jardin, il faut d'abord se délimiter un peu son territoire, on va commencer à... Mais c'est aussi, il faut... Enfin, on dialogue avec ce matériau, et ça c'est aussi une importance, parce que enfin, je pense que c'est pour ça aussi que je crois beaucoup à ça. Oui, enfin, bon, je crois que c'est peut-être assez de cette pièce, mais je veux dire... Oui, non, je crois que c'est assez. Je vais passer à autre chose, parce que sinon je pourrais parler 3 heures en détail de cette pièce, mais ce n'était pas si intéressant que ça. Je vais peut-être aborder donc ce qui était prévu aujourd'hui, à savoir les pièces avec électronique. Et je vais peut-être surtout m'attarder sur Rhizome, parce que comme pour ceux qui seront à Helsinki après, je parlerai de congruence, puisque ce sera joué là-bas. Congruence, c'était pour situer Rhizome, je vais d'abord parler de congruence en bref. Congruence, c'était ma première expérience avec électronique. C'était l'époque, il y avait encore on venait d'avoir, il y avait la 4X qui était fraîchement arrivée. Et c'était, enfin plus ou moins fraîchement. Mais en même temps, c'était l'apparition des systèmes personnels, c'est-à-dire Yamaha. C'était les DX7, les appareils SPX, donc des appareils d'effet. Et l'illusion qu'il y a eu à ce moment-là, c'était que ces appareils-là allaient devenir la réalité, notre réalité musicale, enfin la réalité technique. Donc je me souviens très bien d'avoir été à l'IRCAM, et puis on m'a montré un studio qui venait de... C'était les studios, enfin on appelait ça les studios Yamaha. Et donc il y avait les SPX, les DMP7. Et ça, voilà, pour vous, c'est là que ça se passe maintenant, la 4X, ça va être dépassé. Seulement, à ce moment-là, ce qui nous intéressait tous à l'IRCAM, c'était le temps réel. C'est-à-dire que, je crois que, pour vous, c'est une sorte d'évidence, je pense, mais le temps réel, c'était un problème fondamental à l'époque, c'est qu'on avait ces bandes, et on avait des chefs d'orchestre qui étaient là avec leur clic, pour tomber plus ou moins ensemble, c'est-à-dire que la vie musicale, le temps musical, l'expression musicale était complètement figée. On avait des qualités de son, justement,
qu'on n'avait pas en temps réel. Enfin, le temps réel n'existait pas d'abord encore à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois, une des choses de Durkheim aussi, cette idée du temps réel. Et donc, chacun essayait un peu à sa manière. Dans Ur, par exemple, Magnus faisait une pièce avec la FM. Donc, c'est des séquences de FM et puis qui sont jouées en direct. Et il y avait des premiers travaux de Miller Pocket qui était associé avec un compositeur qui s'appelle Philippe Manoury, que je pense que vous connaissez, qui commençait à travailler sur sa pièce Jupiter, qui était pour flûte et Catrix. Donc l'idée c'était d'avoir, bon, je pense que vous avez déjà eu des introductions probablement à ça, mais donc Miller Pocket était en train de créer le langage Max, et c'était très drôle parce que c'est un personnage extraordinaire et qui... enfin bon. Et donc on venait toujours le voir avec des petits problèmes. Alors on disait, écoute Miller, j'ai un problème, j'aimerais bien faire que ta ta ta. Puis on voyait partir à la machine à café et puis il était là. Puis quand on voyait partir dans le laboratoire, on savait qu'il avait trouvé le problème. Mais, non mais... et donc, dans l'idée, le pari que j'avais fait avec de congruence, c'était... Je veux faire tout ce que fait la Catrix, toute cette machine, mais qu'avec ces petits appareils personnels, comme ils appellent, enfin les systèmes personnels, comme ils appellent ça. Et bon, c'était un peu une illusion parce que pour faire la pièce, je veux dire, il y avait deux SPX, aussi une chose qui était importante, c'est évidemment le MIDI qui était apparu et qui était qui permettait donc de faire des suivis. Bon. Mais, je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemblait le... Si je trouve. Il y avait plusieurs choses, c'est-à-dire qu'un aussi, une chose qui avait été faite à l'époque, c'était l'interface MIDI, l'interface de la flûte MIDI, qui à ce moment-là permettait, c'était vraiment le départ, que la flûte avait des capteurs à ce moment-là, plus un petit microphone, et donc ces hauteurs étaient détectées et traduites en MIDI, et ce qui permettait d'envoyer ça à ces informations au Mac aussi. Donc la pièce était flûte solo, hautbois solo et ensemble. Et donc c'était une pièce, bon je vais aller plus vite que ça parce que ce n'est pas le but de l'opération, mais c'était une pièce type Durkheim de l'époque, c'était c'est une grosse pièce, un peu comme un fragment, il y a beaucoup de monde, c'est fort, c'est... bon. Et donc, quand je suis revenu la deuxième fois, et c'est là où maintenant je vais parler de rhizome, il y a eu toute une série comme ça de pièces, avec ensemble, grand ensemble, bravoureux. Et d'un coup, l'idée de Rhizome, c'était de me dire, je voudrais faire quelque chose de plus simple. J'aimerais faire une chose, disons pas, simple. Quelque chose de revenir à une sorte de... d'essayer de retrouver une sorte de simplicité de quelques événements, pas plus. Et là, c'était par contre la next. Et... Donc l'idée, il y a plusieurs idées dans Rhizome qui reviennent sur Trey, c'était l'idée justement de ces passages, puisque une des idées principales, c'est partir d'un bruit pour arriver au son. Donc c'est pareil, c'est que chaque instrument, ça j'ai gardé justement, j'ai repris ce que je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a le mode de jeu normal, et ils ont aussi des instruments de percussion, etc. Et donc, il y a tout ce jeu bloqué, pas bloqué, ces sortes d'aller-retour au niveau du son, et puis même au niveau de l'électronique, pardon. Au niveau de l'électronique, par exemple, une des premières choses que je faisais, c'était de je vais pas y arriver. T'as de l'eau, toi t'as de l'eau. Non, ça va. Bon, non, pardon. Une des premières choses que je faisais, c'est qu'il y a une apparition du gong, la première fois dans la pièce, c'est déjà, il y a le tam-tam. Donc il y a un bruit, a priori, ça dépend des tam-tams, plutôt indéfini, c'est-à-dire, disons, avec un spectre très riche.
et de commencer à filtrer ce son. Et donc, il y a un moment donné, par exemple, le premier son, c'est je filtre le son du tom-tom et je favorise un do dièse. C'est-à-dire que en employant les filtres, je favorise le do dièse de plus en plus jusqu'au moment où le do dièse apparaît au gong. C'était donc, ce que je veux dire, c'est juste pour parler de certains principes, c'est un des principes, c'est cette idée, je vous ai dit l'autre jour, une des choses qui est pour moi fondamentale dans la musique, c'est l'idée d'une résolution. Je pense que c'est vraiment une chose importante. Et donc, ça, à ce niveau-là, c'est ce que je disais, ce que j'ai oublié de dire l'autre jour, c'est qu'une des choses, quand je parlais de ces... Vous vous souvenez, je parlais de l'idée de ces tas de petits points, ces rythmes qui me permettaient de faire des couleurs. Mais j'emploie ces idées-là, j'en ai parlé avec quelqu'un, aussi dans le sens d'une manière de pouvoir aussi bien contrôler des progressions pour aller de l'avant. Si j'ai une chose comme ça qui bouge, une figure, eh bien, plus ça va, par exemple, je vais peut-être plus ça va les rapprocher jusqu'au moment où ils sont pareils. C'est, rythmiquement, si j'ai une figure, je vais peut-être avoir des sortes de petits, j'appelle ça toujours des petits nuages de notes, l'un au-dessus de l'autre. Ou des rythmes différents, peut-être que ça c'est 5, ça c'est 6, ça c'est 7, je ne sais pas. Et plus ça va aller, je vais les mettre ensemble jusqu'au moment où d'un coup j'aurai 4, enfin qu'ils soient synchrones, par exemple. Ça c'est une petite chose, c'est que ce que je disais l'autre jour avec les quarts de ton, c'est cette manière-là que je les emploie, c'est-à-dire que je vais avoir une note et qui va être, c'est comme une caméra, c'est-à-dire elle est floue, c'est, une note va être floue, et plus ça va aller, par exemple, plus je vais la concentrer sur... c'était une base, une pièce qui s'appelle Résurgence pour saxophoner ensemble, où tout tourne autour d'un mi bémol, et l'idée c'est, je vais avoir un mi bémol flou, ou très... à l'intonation juste. C'est tout ça, et ça je voulais dire que je pense que c'est c'est un des grands mérites, je dis toujours, de la musique sérielle, et je sais que je parle de ma génération, et je crois que vous le vouliez ou non, c'est vrai pour vous aussi, mais en tout cas, c'est certainement vrai pour ma génération, c'est qu'on a été complètement, on est héritier de cette idée de la séparation, enfin, de séparation des paramètres musicaux, c'est-à-dire qu'il y a la hauteur, la dynamique, la couleur, le timbre, enfin, etc., le temps, comme il l'employait pour l'organisation, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est restée, c'est-à-dire que je trouve très bien, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui penser, souvent on pense, bien sûr après il faut remettre les choses ensemble, mais on peut penser, il y a des hauteurs qui vont peut-être se résoudre, il y a des couleurs, enfin des timbres qu'on peut résoudre, ou avoir une progression, je dirais rythmiquement, la dynamique, toutes ces choses-là. Alors on peut faire, par exemple, des vagues où on va avoir des notes qui vont se résoudre, mais où le rythme ne se résout pas. C'est-à-dire qu'on peut vraiment doser à quel moment est-ce que je veux vraiment que tout aille ensemble. Dans Le Survivant de Varsovie de Schoenberg, il y a vraiment ça. Il y a un moment donné, juste avant l'arrivée du chœur final, qui est la résolution de la pièce, il y a le moment où tous ces paramètres vont... Il y a l'agogique, tout se met ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout est là avant, mais c'est jamais eindeutig. Là, aujourd'hui, c'est la peine en français, eindeutig. Oui, enfin, un sens, univoque, merci. C'est vraiment horrible. J'ai honte. mais c'est-à-dire qu'on peut. Donc il y a des moments pas clairs, et d'un coup, toutes les forces vont aller ensemble, et c'est des moments qui sont, à mon avis, des moments forts. Bon. Peut-être une chose que je vais expliquer par rapport à Rhizome encore, c'est une chose qu'à l'époque j'avais mise au point pour une autre pièce, c'est ce que j'appelais les cycles de développement. C'est-à-dire l'idée aussi, au niveau de.
Parce que ça, c'est une autre chose qui se passait, pas seulement à l'IRCA, mais où il y a des gens comme Steve McAdams qui travaillaient sur la cognition. Et c'était des choses qui commençaient à intéresser un peu tout le monde. C'était commencer à voir moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de créer des liens, justement, au niveau gestuel, c'est-à-dire, ou au niveau de figure. Donc, je prends l'exemple de congruence, mais on pourra regarder dans Rhizome, enfin, où je prends un exemple type, parce que je le connais par cœur, et comme j'ai de la peine ce matin, ce sera plus facile. C'était l'exemple type, c'était non, c'est dans modification, où je parle, pour moi, ce que j'appelle le cycle de développement, c'est que je pars de deux figures musicales à l'opposé. Une note tenue et un groupe d'appoggiature rapide. Là, je parle du geste seulement. Et l'idée de l'époque, c'était comment est-ce que je peux créer des liens entre des figurations, des gestes qui sont a priori opposés. Par exemple, un exemple, c'est de dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'une note tenue? Au violon, ce n'est pas une note tenue, enfin, c'est un effet acoustique, parce qu'en fait, ce n'est pas une note tenue, c'est une note répétée extrêmement rapidement, tellement rapidement qu'on n'entend pas. C'est-à-dire, quand un archet de violon fait une note, en fait, ce n'est pas réellement une tenue, mais c'est une note qui est répétée d'une manière très, 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 très rapide et très rapprochée, et qui donne cet effet. Donc, je pars de là, je dis note répétée rapide. Ensuite, je vais peut-être dire la même chose, mais maintenant je vais changer, par exemple, une note sur deux. Donc, note répétée rapidement, mais avec deux notes. L'autre possibilité de partir de là, déjà, c'est de dire aussi qu'est-ce qui ressemble à une note tenue. C'est aussi peut-être, sinon, un tri. Un tri, c'est aussi ça. Ensuite, si je continue là et je rajoute, par exemple, une troisième note, etc., une quatrième note, une cinquième note, enfin, je veux dire, je vais avoir donc des choses plus ou moins longues, et à partir de là, je peux simplement les raccourcir et je vais arriver sur ça. Donc, c'est-à-dire que par exemple, là, c'est un chemin. Je peux aussi dire, si ça, je raccourcis, ou si je, disons, si ça, je le mets ensemble, par exemple, comme ça, c'est-à-dire que par exemple, un, deux et ces trois notes, je les mets ensemble, ou si je mets ensuite les deux notes plus les trois notes ensemble, jusqu'au moment où je vais avoir un accord. Un accord forté, je peux penser comme ça, enfin, ou je peux, pardon, je veux dire forté par exemple, mais lié par exemple forté 3P, ou cet exemple-là. Et là, je me retrouve sur mon idée de note tenue. Enfin, de créer justement une sorte de réseau de gestes, de figurations, qui fait que quand on va entendre, quand on a des éléments, on peut, c'est ce que je vous expliquais aussi l'autre jour avec les accords l'idée de l'accord instantané, c'est-à-dire avoir des gestes qu'on peut faire un chemin où les choses, on va entendre un rapport avec, on va avoir des événements et on va pouvoir pousser un événement un petit peu dans un sens qui va faire que on va le plus entendre quelque chose comme ça, faisant partie de ça, ou plus comme une chose comme ici. Enfin, on peut créer l'impression qu'il y a un monde de sens qui est là et que d'interaction entre les différents éléments. Si je prends le cas de Rhizome, je vais essayer de peut-être un peu plus concret. Je trouve, comme par hasard.
faut jamais se coucher à 3 heures du matin avant un séminaire. Que c'est mal parti. Je suis désolé. Trois papiers que je trouve pas. Tu peux pas raconter quelque chose pendant que je fais. Bon, je sens que je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Alors, attendez. Peut-être avant de continuer, parce que là c'est un peu assez rien. C'était quelqu'un m'a posé la question hier soir par rapport à comment était le setup de Rhizome, qu'est-ce qui se passait au niveau technique. Alors, je ne sais pas très bien à quel point vous êtes au courant ou qu'est-ce que vous avez déjà eu comme cours. J'ai commencé par ça, puis on va essayer de retrouver le papier tout à l'heure. C'est que donc on a les deux pianos, les deux percussions. Il y a un piano qui est MIDI actuellement, et sinon l'autre, et chaque instrumentiste assigne encore une pédale MIDI. Tout ça est donc lié à la Next, et il y a ce qu'on appelle un suivi de partition. C'est-à-dire que les notes sont dans la machine. Et la machine va réagir à telle note, il va mettre en place telle transformation. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce problème a déjà été abordé par ailleurs, ici ou pas ? Parce que je vais pas. Oui. Oui, d'accord, ok. Donc, parce que, bon, beaucoup des transformations se font en temps réel encore. Alors, au départ, tout se faisait quasiment en temps réel. La première simplification qu'il y a eu sur Rhizome, c'était en fait d'introduire en plus des samples qui sont, eux, transformés en temps réel. C'est-à-dire parce que, moi, personnellement, plus ça va, plus je suis mécontent. Enfin, on a parlé du temps réel, on a commencé à parler du temps réel. Un des problèmes du temps réel, c'est la qualité du son. Parce qu'il y a tellement de choses en jeu, il y a la distance du microphone, il y a si le joueur joue un peu plus fort, il y a toutes sortes de. Enfin, est-ce que l'entrée de la machine va être pareille ? Enfin, il y a 36 000 choses qui font qu'on ne peut jamais prédire à 100% comment va être le son. On sait plus ou moins qu'est-ce qui. Et c'est toujours une. C'est assez énervant. Par exemple, dans Concurrence, la première chose, le départ de la pièce, c'est un La qui est joué. Et cela est gelé par la machine. Et c'est le genre, c'est une pièce que je crois que j'ai perdu tous mes cheveux grâce à ça. Parce que, je veux dire. Thank you.
Thank you.
veux dire, par exemple, ça, c'est, on n'a plus le temps de parler, mais une chose que je voudrais dire, c'est justement. Bon, d'abord, je m'excuse, ça, c'est un enregistrement que je n'avais pas entendu, donc je trouve pas, c'est pas une bonne copie. Mais il y a des choses, typiquement, par exemple, cette pièce dont je ne suis pas contente, et je ne l'ai pas touchée depuis, parce, pendant un moment, parce que j'essaie de comprendre pourquoi. Et il y a des choses, à mon avis, là-dedans, par exemple, des idées qui sont des fausses idées, enfin, qui s'avèrent être fausses. Parce que, par exemple, l'idée, pour moi, c'était que le violon allait être là, en fait, du début à la fin, et que l'orchestre va rentrer. Et va en fait complètement le submerger. Mais je voulais quand même qu'elle continue à jouer, par exemple. Mais en fait, il s'avère que pareil, ça pose un problème, parce que quand on voit quelqu'un sur scène qui joue et qu'on ne l'entend pas, en fait, c'est quand même assez embêtant. C'est-à-dire que. Parce qu'on veut. Et l'idée de ça aussi, c'était. Il y a à un moment donné, il y a tout l'orchestre qui est à l'unisson. C'était une idée qui vient du concerto de violon de Berg. Vous savez que là, il y a un passage où c'est même marqué dans la partition, où scéniquement, la violoniste ou le violoniste doit commencer à prendre tous les cordes avec elle. C'est-à-dire qu'elle se met à jouer une mélodie, elle va être rejointe par les premiers violons, par les deuxièmes violons, par plus tout le monde. Toutes les cordes vont finalement. Et c'est elle qui est censée les diriger. Enfin, c'est elle qui prend le dessus. C'est une raison symbolique chez lui. Mais, et là. C'était un peu l'idée, c'était que c'est elle qui donne le jeu. Là, ça ne me gêne pas. Mais dans ces autres passages, je trouve que ça pose un problème. Donc ça, c'est une chose que je dois retravailler. Je dois retravailler aussi la fin et le début, que je trouve un peu trop lent, trop long, trop. Bon, enfin bon. Et je crois que. Enfin, moi, tout ça pour dire que je reviens à ce que je disais le premier jour, c'est. Soyez pas, c'est comme les choses. Ne prenez pas toujours la première version, le premier résultat. Essayez toujours de retrouver une deuxième, enfin autre chose. Ne pas toujours accepter la première solution. Voilà, et moi, je m'excuse pour aujourd'hui. J'essaierai d'être la prochaine fois un peu plus.